DW, le club de l'auditeur.
C'est lundi le 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. D'après la dernière édition du rapport de l'ONU sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, l'objectif de développement durable, qui consiste à éradiquer la faim d'ici à 2030, ne sera pas atteint. Entre 691 et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022. 144 millions d'enfants ont des problèmes de croissance et 5 millions sont morts avant leur 5e anniversaire. L'Afrique est la région la plus touchée par la crise alimentaire qui s'aggrave en de nombreux endroits. Une personne sur cinq y souffre de la faim. Alors, comment vivez-vous cette situation et qu'en pensez-vous? Je vous propose des témoignages et commentaires dans cette édition du Club des auditeurs et internautes, l'émission à votre écoute et votre service, tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Mireille Drone Micro, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, la RDC connaît la plus grande crise alimentaire au monde, avec 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, selon Peta Muzoko, représentant du Programme alimentaire mondial en RDC. Selon le PAM, l'instabilité politique et les conflits armés qui perdurent en RDC ont dévasté les systèmes de production et de distribution alimentaire. Les déplacements de population, la destruction des infrastructures et la perturbation des activités agricoles ont entraîné des pénuries alimentaire généralisée et une vulnérabilité accrue à la faim, avec 1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence dans ce pays des Grands Lacs. 6 300 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et environ 6 millions d'entre elles se trouvent dans les trois provinces de l'est du pays. Benjamin, fidèle auditeur de la DW et prestataire de santé dans la province du Nord Kivu justement, le confirme. On assiste à des cas de malnutrition aiguë chez les enfants entre 0 et 5 ans, et même chez les femmes enceintes, avec des bébés de faible poids à la naissance.
La sécurité alimentaire, c'est un problème qui est sérieux au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme moi, étant que prestateur, c'est moi-même qui détecte cela auprès de nos populations. Et j'ai bien signalé que c'est auprès des enfants entre 0 à 5 ans, aussi chez les femmes enceintes, vous voyez que vraiment, il y a un problème sérieux par rapport à la sécurité alimentaire. Et nous avons constaté que c'est en rapport avec tout ce qui se passe à l'Est que cela soit ainsi. Donc, on croit avec la sécurité, avec des conflits, perpétitions, avec des déplacements massifs des populations, ça amène les populations vraiment dans ces problèmes alimentaires.
Oui, mais quand vous parlez, par exemple, bon, de la guerre, ça c'est clair, il n'y a pas la sécurité, donc on ne peut plus avoir les greniers alimentaires que vous aviez avant, ça c'est clair. Mais comment se fait-il que, par exemple, les enfants entre 0 et 5 ans souffrent de sous-alimentation, de malnutrition? Est-ce que les mamans ne trouvent pas les produits nécessaires à l'alimentation des tout-petits, des nourrissons? Comment se fait-il qu'ils aient un si faible poids à la naissance déjà? Ou c'est parce que les mères elles-mêmes, déjà quand elles portaient les enfants, ne se sont pas nourries correctement pour avoir des enfants sains au départ? Ou est-ce que les prix sont trop élevés?
Oui, effectivement, c'est parmi les facteurs qui puissent être favorisants. Et quand nous disons aussi certaines populations ne sont pas aussi éduquées à terme des prises d'aliments avec un régime équilibré, ça aussi est un défi auprès des populations. Puisque nous vivons dans des milieux ruraux où il y a certaines populations, bien même elles ont produit des céréales, mais elles ne vont pas penser alimenter leurs enfants. Toutes ces céréales seront évacuées au niveau du marché. Et là, on disait que c'est un problème aussi d'éducation au niveau des populations. Donc, ce sont des facteurs qui sont diversifiés.
C'est ça. Et en ce qui concerne la production, vous disiez par exemple, il y a des céréales, mais même dans votre région, quand même, les agriculteurs arrivent, malgré l'insécurité qui règne actuellement, à cultiver quand même les terres.
Oui, il y a une partie, et là où il y a un peu de sécurité, là on peut cultiver un peu de céréales, et la grande partie maintenant, c'est là où il y a l'insécurité, là où les populations se sont déjà déplacées et n'ont plus accès à leurs champs. Maintenant, je disais pour les populations qui peuvent accéder à leurs champs, Au lieu qu'elles consomment, au lieu qu'elles fassent consommer ces céréales par leurs enfants ou bien elles-mêmes, elles vont encore évacuer ces céréales pour essayer de devenir aux autres besoins. Et ça fait pérenniser vraiment la malnutrition dans la communauté. C'est ce qui peut expliquer la malnutrition qui peut se vivre dans nos régions rurales dans lesquelles nous vivons ici à l'Est.
Mais est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation aussi, par exemple, pour attirer l'attention des mamans, pour les petits, par exemple?
Effectivement, nous faisons des sensibilisations auprès des mamans lors des séances de consultation prénatale ou lors des séances de consultation préscolaire. C'est là que nous disons aux mamans l'importance des régimes équilibrés. Comment on peut gérer le peu d'aliments qu'on a à la maison en y ajoutant soit des céréales pour le bien-être de la santé ou bien de cet enfant pour que vraiment la sous-alimentation ne puisse pas se faire vivre dans la famille. Mais vraiment, c'est un problème dans notre communauté de la malnutrition ou bien de la sécurité alimentaire.
Oui. Et une dernière question, qu'en est-il à l'accès à l'eau potable? Est-ce que tout le monde a accès à l'eau potable ou est-ce que là, il y a des dangers aussi de maladies par manque d'eau potable?
Oui, il y a des problèmes d'ordre hydrique. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. Puisque je disais que nous vivons dans des milieux ruraux, oui. Il y a certains milieux dans lesquels on peut avoir des addictions d'eau, mais la grande partie n'a pas vraiment cette addiction d'eau. Et nos populations, souvent, elles se déplacent des milieux X pour aller dans un milieu Y. Surtout, ce sont des agriculteurs. Et lorsqu'elles se déplacent, elles vont camper au champ. En étant au champ, elles ne vont plus accéder à cette eau qui est potable. Donc, elles vont utiliser l'eau qui coule avec tous les risques d'avoir des maladies d'ordre hydrique comme la fièvre typhoïde, les verminoses, et elles sont exposées à ce type de maladies. Donc là, c'est une réalité puisque nous avons des données qui sont frappantes quant à ça. Donc là, je dois confirmer que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. En tout cas, il y a problème aussi des carences de l'eau potable dans nos milieux ruraux.
Une autre question, il y a le PAM aussi qui intervient. Est-ce que vous pensez que le PAM arrive à soulager les populations ou pas? Certains, quelquefois, sont critiques aussi par rapport aux ONG qui apportent de l'aide. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, avec l'aide, je sais qu'il y a vraiment un peu de résistance, puisque si, surtout dans la partie est ici, on en a marre avec, je disais, avec les conflits armés, avec le déplacement. Maintenant, les populations ont une autre. Au lieu qu'on leur donne des dons à tout moment, je crois l'important, c'est leur donner la paix. C'est pourquoi on peut manifester une certaine méfiance pour certaines gens, mais la majorité, comme elles sont des gens qui sont démunis, on est obligé de prendre. Mais c'est ça vraiment la philosophie qui se vivait. Au lieu qu'on nous donne des choses là gratuites comme donation, qu'on nous donne la paix. Mais oui, comme c'est vraiment la pauvreté, on n'a pas à manger, on n'a pas à faire, on est obligé d'accepter ce qu'on donne. Donc, on est contraint de recevoir tout ce qu'on peut amener comme donation. C'est ça que je dois dire.
Eh oui, la paix, c'est évidemment ce qu'il faut souhaiter. C'est le plus important pour pouvoir se développer.
Oui, c'est ça.
D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, et surtout, bon courage à vous.
Ok, merci. Moi-même, je vous remercie.
Espoir, lui aussi, dans l'Est de la RDC, se plaint également. Vraiment, ici, les choses vont mal. Les gens souffrent de la hausse des prix. La cause de tout ça, c'est l'impraticabilité de nos routes. Si on reliait les provinces entre elles par des routes, nous n'en serions pas là, écrit-il. Sony de Mueniditu, dans le Kassaï oriental, est bien d'accord. La crise alimentaire est une réalité. Dans mon coin, c'est le maïs qui est le plus consommé, mais son prix a flambé. Le méca, la mesurette de maïs, coûte 2,5 $. Le plus grand dilemme, c'est le manque d'infrastructures routières et les chemins de fer n'ont pas non plus assez de locomotives pour acheminer les produits sur différents site, écrit-il. C'est partout dans toutes les provinces qu'il y a crise alimentaire, regrette Léon de Kasenga. Selon les autorités du pays, cette crise totale est due à la pandémie de Covid-19 et à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais moi, je pense qu'on doit devenir des acteurs principaux au lieu d'observer. Nous devons nous baser sur l'agriculture dans notre pays, car il y a assez de champs à cultiver pour lutter contre le fléau de la sous-alimentation, note Albert Raphaël de Kinshasa. Seulement voilà, nous déplorons les fabricants de guerre, écrit Edouard de RDC lui aussi. À cause d'eux, nous n'avons pas accès à nos champs. Dites à la communauté internationale de nous donner la paix, conclut-il. Au Mali, près d'un quart de la population souffre d'insécurité alimentaire modérée ou grave et pour la première fois dans le pays, plus de 2500 personnes sont menacées de famine dans la région de Ménaka, dont beaucoup d'enfants. Selon l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la situation d'urgence et de crise est surtout liée à l'insécurité, aux conflits intercommunautaires, aux déplacements inhabituels de populations et aux perturbations des activités socio-économiques avec dégradation des moyens d'existence. La combinaison de ces facteurs et les restrictions à l'accès humanitaire risquent de pousser près d'un million d'enfants de moins de 5 ans vers une malnutrition grave d'ici le mois de décembre prochain. Au moins 200 000 enfants sont menacés de mourir de faim si une aide cruciale ne peut leur être apportée, selon l'UNICEF. Parmi les zones sous pression, Gundam, Gao, Vuenza, Nara ou encore Bandiagara et Bankas. Baba du pays Dogon, justement, constate que les zones rurales se sont vidées à cause de l'insécurité.
Le problème, c'est qu'il y a eu des déplacements très massifs, quoi. Et ces déplacements massifs-là ont créé un vide dans les zones rurales. Vers Bankas, on peut noter qu'il y a plus de 300 villages qui sont vraiment actifs dans l'agriculture, qui se sont déplacés, soit dans l'interne ou dans l'externe, quoi.
Oui.
La plupart, c'est des déplacés internes. Ils sont déplacés dans le secteur de Banyangara et Sakuro, ainsi de suite. Or, c'est les ruraux qui sont les bases de l'agriculture. Parce que là, ils n'ont que cette activité. Les enfants, ils vont dans l'exode et pendant le mois d'avril-mai, ils essaient de retourner le plus tard le mois de juin. Ils viennent, ils font la semence et après, ils retournent pour aller chercher de l'argent.
Oui.
Et là, les gens ne peuvent même plus aller en bourse à cause des hommes armés. La plupart, c'est les hommes qui s'attaquent soit à l'administration directement ou indirectement à la population quand ils subissent des revers avec l'armée.
Oui.
Donc du coup, les gens, ils ont peur, et puis ils vivent dans le village, quoi. En plus de cela, nous avons chassé tous les partenaires, et voilà, quoi, même les Nations Unies. Donc les ONG, surtout la plupart, c'est des ONG qui sont européennes, quoi, qui aidaient les gens, surtout dans le domaine de l'alimentation, et qui aidaient beaucoup les déplacés internes.
Et ils sont et tous
voilà,
partis.
Les gens aussi sont chassés.
Oui.
Imagine le prix des riz. Le riz est moins cher que le mil. Le mil était une denrée par excellence de base, quoi, pour tout le monde.
Oui.
À un prix accessible avec les haricots. Mais de nos jours, on ne les voit même pas. Si tu as l'argent, tu veux 10 000, c'est vraiment un calvaire pour le retrouver.
On n'en trouve pas sur les marchés.
Là où il n'y en a pas dans les marchés. Même au pays de Rouen, il n'y en a pas. Bizarrement, le millet, il est devenu très petit avec les graines d'haricots parce que les gens, ils n'attendent même pas la maturité, quoi.
Et du coup, est-ce que les agriculteurs ne cultivent plus du tout parce qu'ils ont peur ou alors ils cultivent, mais ils s'en vont et puis à cause de l'insécurité, ils ne peuvent pas venir chercher leur récolte?
Ça, c'est les deux dernières années. Mais en ce moment, même, ils ne cultivent pas parce qu'ils ont tous venus s'entasser dans les grandes villes d'agglomération comme Bankas, Banyangara. Et là-bas, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre à cultiver. Les gens, ils ont tout confisqué. Et la plupart, c'est pour la construction, l'habitation, quoi. Ils n'ont pas de terre. Et c'est ce qui fait que pour vivre, ils vont aller dans les brousses, couper tous les arbres. À Bankas, de l'année passée à aujourd'hui, on a coupé presque les deux tiers ou les trois tiers même de tous nos arbres, quoi.
Ah.
Et pour les vendre. Et puis aller acheter de quoi vivre, quoi.
Mmh.
Ils ne sont pas habitués à acheter des céréales.
Oui.
Tu sais, dans les villages, les gens, ils stockent tout dans les greniers. Or, les greniers sont inaccessibles. Les villageois, ils n'ont même pas accès à leur village. Beaucoup de villages sont rayés de la carte.
À cause de l'insécurité.
À cause de la sécurité. Ils se disent que c'est les terroristes qui sont venus leur dire de déguerpir. Et voilà, ils n'ont même pas eu le temps de se préparer. On ne peut pas remporter tous ces greniers-là en un, deux, trois jours. Et ça, c'était les deux dernières années. Et cette année, le problème, c'est qu'ils sont dans les villes, ils sont même en train de vivre dans les maisons des gens qui ont aussi déguerpi des zones comme Bankas pour venir à Bamako.
Mmh.
Il y a beaucoup de déplacés internes. Et ils n'ont pas de champs. Et voilà, ils se promènent, ils cherchent du travail. Or, c'est les bras valides. Et
mmh.
Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tous dans les mines artisanaux pour chercher de l'or.
Eh oui.
Et c'est là-bas que la population s'entasse en ce moment.
Parce qu'il faut bien survivre.
Aussi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, les gens là-bas aussi sont en train de se plaindre parce que les terres agricoles sont en train d'être envahies par le travail.
Par des déplacés?
Les déplacés, ils sont dans les mines. Et les gens qui sont dans les mines aussi se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus cultiver aussi. Parce que tous les champs sont devenus des mines artisanaux, quoi.
Eh oui, ils essaient de creuser le sol à la recherche de minerais et les terres sont plus cultivables.
Voilà, et ça c'est un degré. Beaucoup de terres sont cédées aux Chinois qui sont en train d'exploiter de tort à travers et qui salissent les zones qui sont là pour les irrigations. C'est un grand problème, quoi.
Mais les Chinois, ils font quoi avec les terres?
Ils font l'exploitation des
mines.
Dans
oui.
Des zones comme Ticasso, voilà, des mines, un peu en cachette, quoi. Ils viennent avec leurs machines, ils s'installent, ils salissent l'eau, ils versent les les déchets, c'est-à-dire avec lesquels ils traitent le méthane, dans les eaux directement qui coulent.
Ouais.
Vers Sicace, c'est un problème, ça tue les poissons.
Bien sûr, gens, ça pollue du coup l'eau.
Avec cette eau. Exactement. Sicace est attaqué par ça, et Caille aussi, c'est la même chose.
Mm.
Et la zone qui était par excellence, la zone d'agriculture, le centre, maintenant, ça ne va pas là-bas, pas du tout.
Et du coup, ils vivent de quoi? Il y a une sous-alimentation
Exacerbée. Même les enfants qui avaient de la cantine scolaire, qui profitaient des aides d'alimentation, sont interrompus parce que le gouvernement a chassé toutes les ONG françaises. Or, c'est les 90% des ONG et 100% même dans les centres. Là, maintenant, les gens sont en train de récolter les champs. Or, ce n'est pas le moment. Normalement, c'est jusqu'à la fin de ce mois qu'on fait les récoltes. Parce que les gens n'ont rien dans les greniers.
Du coup, ils n'attendent pas la maturité, ils récoltent déjà maintenant.
Non, c'est pourquoi les graines de mil ne sont pas de qualité. C'est des petites graines. C'est des choses qu'on ne mangeait pas autrefois. On donnait ça aux hommes qui venaient du Nord, qu'on appelle communément les Bellas, qui sont un peu partout dans les pays d'Ougon pour casser les bois et les femmes font les linges. Ça y est qu'on donnait. Mais là, c'est nous-mêmes qui consommons ça. Et si tu as même ça, tu as la chance.
Parce qu'il faut vite récolter tant qu'il y a quelque chose. On ne sait jamais ce qu'apporte le lendemain.
Voilà.
Et puis, il faut se mettre quelque chose sous la dent aussi, bien sûr.
C'est obligé. On va plus, parce que les gens se cherchent la tête. Quand ils vendent le mil, ils sont obligés d'aller acheter encore quelque chose comme le riz, que les gens n'ont jamais acheté dans les zones rurales. Sauf que s'il y avait des mariages ou les baptêmes, c'était pour faire la fête avec. Et là, c'est devenu la denrée de base, parce que c'est la moins chère maintenant au marché du riz. Et cette riz qui est exploitée dans la zone office du Niger aussi, se trouve dans le même problème que les Dogons. La zone office du Niger est envahie par les hommes armés. Ils empêchent les gens d'aller même dans les champs. C'est des zones de culture de riz par excellence, mais ils ne peuvent même pas avoir accès à leurs champs. C'est ça le problème. Les villages sont sous embargo, personne ne peut sortir. Dans les zones agricoles, surtout, ils sont pris en otage.
Et importer, c'est pas possible. De toute façon, c'est trop cher aussi, non? Importer de pays extérieurs.
C'est ça le problème. Il n'y a pas de route. Toutes les routes sont minées. C'est ça le grand problème, même. Quoi. Les camions ont tellement été attaqués que les commerçants ont retiré leurs remorques de beaucoup de zones. Quoi.
Ils veulent plus se déplacer.
Par exemple, c'est des zones d'excellence en agriculture.
Et oui.
C'est tout le pays du monde. Et entre Bankass et le Burkina, c'est la même chose. Imagine Bankass et Ouagia, ça fait 150 km. Mais les gens, ils voient à Ouaga, quand ils quittent Ouagia, aller à Bobo, faire le tour, venir vers Mopti, et puis rejoindre Bankass. C'est-à-dire de 2500, le transport est devenu à 45 000 maintenant.
Oui.
Et voilà, c'est tout ça qui rend la vie
impossible.
La vie, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est impossible, exactement. Douala paraît vers le Burkina. Il n'y a plus de village, il n'y a que des hommes armés qui se baladent là-bas dans les frontières. Et entre Mali et Mauritanie, c'est la même chose. Il n'y a pas de village entre les frontières. Ce sont tous des guerpilles. Parce qu'ils savent que c'est la récolte, donc il faut venir déranger les gens. Ils brûlent les champs, ils brûlent les greniers, ils brûlent toutes les récoltes, les animaux sont emportés. Or, les animaux dans les zones rurales, c'est comme la banque.
Bien sûr, c'est toute la richesse.
Voilà. Il ne faut pas que les Nations Unies ou l'Union Européenne se fatiguent de faire la diplomatie avec nos gouvernements. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a de la mésentente entre eux, mais cela va de notre survie. Quoi. Il faut qu'ils s'entendent, il faut que les aides reprennent. Surtout les aides alimentaires, il faut que ça reprenne. Quoi. Pour 2-3 mois, les gens peuvent s'en sortir, mais au-delà de ça, le mois de mars, avril, je m'imagine, comment est-ce que les gens pourront s'en sortir? Parce que là, il y a plus de 8 millions de Maliens qui sont directement visés quoi, par...
La malnutrition.
Voilà. Une fois, c'était que les enfants, mais là, il y a même les adultes qui sont concernés. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de ressources. Ils étaient aidés surtout par beaucoup d'ONG qui les donnaient de l'argent, qui les donnaient de l'huile, qui les donnaient à quoi vivre tous les mois. Là, tout est coupé. Et ces hommes qui travaillent dans les ONG aussi, ils sont dans la même précarité parce qu'ils sont à peu près 10 000 dans la zone de Mopti, juste dans la zone de Mopti. 10 000 agents qui travaillent directement avec les ONG, mais qui sont en chômage maintenant. Ils ont des familles. Et tout ceci vient s'ajouter au grand nombre de faibles qui n'ont plus le moyen de s'offrir un peu de riz ou un peu de mil.
C'est terrible.
Ouais.
Ok.
Ouais. Merci beaucoup, Miguel. Bonne continuation.
Merci. De même.
Maïga, dans la région de Mopti, au centre du Mali, regrette aussi que les villageois qui vivent de l'agriculture et de l'élevage soient les plus affectés par la famine. Beaucoup de Maliens ont donc fui leur région. Plusieurs milliers se sont réfugiés au Burkina Faso, qui souffre d'une crise alimentaire sans précédent et d'une dégradation majeure de l'accès à l'eau. Les violences armées ont provoqué là aussi des déplacements de population en masse. Là aussi, l'accès aux champs et aux marchés est difficile et certaines familles ne parviennent toujours pas à couvrir leurs besoins. Le monde alimentaire doit essayer de subventionner tous les produits de première nécessité, comme chez nous en Afrique, le maïs et le riz, afin de permettre à toutes les couches sociales de s'en procurer, suggère Moussa du Burkina. Et puis, nos gouvernants internes doivent aussi jouer leur partition. production en subventionnant également les prix des produits vitaux et surtout veiller à la protection des jeunes qui ont du mal à trouver de l'emploi pour subvenir à leurs besoins. Un manque d'encadrement de ces jeunes risquerait d'engendrer d'autres fléaux comme la délinquance par exemple, craint Moussa. Charles de Ouagadougou en convient aussi, la crise alimentaire est une réalité dans mon pays, alors selon lui, il faudrait inverser l'agriculture de contre-saison en construisant des barrages. Et puis les dabas, ces outils similaires à la houe, utilisés pour le labour, la préparation du sol, la récolte et le sarclage, ne suffisent plus. Charles plaide donc aussi pour la mécanisation de l'agriculture. En Guinée, le taux de pauvreté reste alarmant. Une grande partie des 13,5 millions d'habitants du pays est touchée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui se sont aggravées en raison du choc international sur les prix des denrées alimentaires et des engrais, menaçant la fragile reprise du secteur non minier après la pandémie. En Guinée forestière, 38% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, une statistique très proche du seuil critique défini par l'OMS de 40%. Un tiers de la mortalité infantile est due à la malnutrition. Pour préserver ses stocks et stabiliser les prix, les autorités de transition de Guinée ont décidé en juillet dernier de suspendre pour 6 mois les exportations de plusieurs denrées alimentaires clés comme le manioc, le maïs et les farines à partir de ces cultures, le riz ainsi que les oignons, les pommes de terre, les tomates, les piments, les aubergines, les patates douces et d'autres légumes figurent également dans la liste. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les autorités de transition procèdent à la suspension temporaire des exportations agricoles pour stabiliser les prix sur le marché local. Début mars, une interdiction de 3 mois avait été prononcée concernant des légumes, la farine de manioc et de maïs, et au mois d'avril, l'exportation du poisson était interdite pendant 1 mois pour soulager le panier de la ménagère. Pour Jean-Maurice de Farana, en tout cas, la meilleure solution pour combattre la faim, c'est de développer l'agriculture. Et il plaide pour la réduction des prix des intrants qui ont fortement augmenté pour permettre aux agriculteurs d'y avoir accès.
Oui, il y a un problème alimentaire en Guinée, tout le monde ne mange pas à sa faim.
Et pourquoi ?
Bon, la majorité de la population, presque, sont pauvres.
Oui.
Hein, c'est la vérité. La majorité de la population est pauvre, donc il y a une crise alimentaire. Les gens ne mangent pas à la faim. Il est normal de manger 3 fois par jour, alors qu'en Guinée, ici, c'est pas ça. Il y a certains qui mangent 1 seule fois par jour, il y a d'autres qui mangent 2 fois par jour.
Et c'est-à-dire que les produits, les denrées de première nécessité sont là, mais elles sont trop chères, peut-être ?
Oui, les produits de première nécessité sont chers, il y a ça aussi. Alors que les gens n'ont pas d'argent, comment ils peuvent s'en procurer ? Et voilà un problème.
Et comment se fait-il que ces produits de première nécessité soient si chers ? On parle de quels produits ? Par exemple, du riz ?
Oui, par exemple, le riz, qui est l'aliment de base en Guinée. Tout le monde mange du riz. À table de ça, il y a le maïs, le fenouil, le manioc. Voilà.
Et comment se fait-il que les prix soient trop élevés ? À quoi c'est dû ? À une mauvaise production ou à quoi ?
Bon, la majorité du riz est importée, malgré que le pays produit beaucoup de riz.
Oui.
Et en dehors de ça, y a le riz importé que les gens mangent beaucoup. Et ça, c'est certainement que le prix est à 320 000, 350 000 par endroit.
Et pourquoi les gens préfèrent manger le riz importé plutôt que le riz local ?
Oui, c'est le choix de chacun. Hein. Chacun est libre de faire son choix.
Mais les autorités ont interdit l'exportation du riz, de l'oignon, du fonio, de l'arachide, par exemple, justement pour sécuriser un stock de denrées de première nécessité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça a changé quelque chose ?
Bon, ça arrive, il y a des moments avec les crises politiques, des fois on ferme les frontières, ça peut arriver. Donc cela peut avoir des impacts aussi que sur les produits de première nécessité que sur dans le marché.
Mais est-ce que vous pensez que d'interdire l'exportation de denrées alimentaires, ça peut aider en effet, ou pas ?
Bon, l'exportation des produits, ça peut aider aussi pour avoir un supplément d'argent, mais trop d'exportation encore, c'est pas bon pour le pays.
Et donc vous pensez qu'il faudrait, pour pouvoir avoir une production moins chère, il faudrait réduire le coût des intrants, par exemple, des intrants agricoles.
Exactement. La réduction du coût des intrants, voilà une solution pour nous. Parce que si la majorité de la population est pauvre et que les intrants agricoles sont chers, donc cela peut avoir des impacts négatifs sur le terrain.
Oui.
Mais si le prix est réduit, cela peut soulager les agriculteurs aussi.
Et comment se fait-il que les intrants soient chers ? Est-ce que ce sont justement des engrais d'importation ou est-ce qu'on sait en fabriquer sur place et suffisamment?
Oui, c'est mieux de fabriquer sur place et suffisamment. Avec ça aussi, l'État a fait une contribution pour flager le prix des intrants agricoles en faisant la subvention. Mais malgré ça aussi, il serait mieux de produire sur place et suffisamment en Guinée.
Et est-ce que suffisamment de gens, de jeunes, par exemple, se lancent dans le secteur agricole ou est-ce qu'il y a un manque justement de jeunes qui peuvent développer ce secteur agricole et surtout développer de nouvelles formes plus modernes de culture, par exemple?
Oui, je vous dis qu'en Guinée a beaucoup de potentialités agricoles. Vous savez que faire de l'agriculture, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de ressources.
Oui.
En tout cas, il y a quand même des gens qui sont investis dans l'agriculture et que vraiment ça a donné beaucoup de résultats, mais ils ne sont pas beaucoup en Guinée. Malgré oui, il y a quand même des opérateurs économiques qui développent l'agriculture, mais ce n'est pas suffisant.
Et donc, il faudrait qu'il y en ait plus, il faudrait encourager ce secteur?
Oui, il faudra encourager ce secteur pour qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs, beaucoup plus d'investisseurs dans le domaine agricole.
D'accord. Ben, en tout cas, je vous remercie. Bon courage.
Merci
à vous.
Merci à vous de même.
De son côté, l'État de Conakry félicite et encourage les petits producteurs locaux qui évoluent avec leurs fonds propres pour assurer la consommation locale. Hélas, ils ne sont pas écoutés ni accompagnés financièrement, surtout techniquement et matériellement, regrette-t-il. Ils sont oubliés au profit des grands producteurs qui n'ont aucun impact sur le marché local en termes de consommation, selon lui. Alors, il invite la direction du Fonds de développement agricole à faire des petits producteurs locaux sa première priorité, car le développement agricole passe nécessairement par là, conclut-il. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce club, comme toutes nos émissions en podcast, sur notre site internet. Notre adresse www.com/français-sans-cédille. Merci de votre fidélité et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.